Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui des rhumatismes dans Priorité Santé. Derrière ce terme, on retrouve près de 200 pathologies différentes. Une grande famille de maladies qui peuvent affecter diverses parties de l'appareil locomoteur, les os, les muscles, les articulations, les tendons. On associe souvent des douleurs régulières invalidantes à ces maladies rhumatismales, dont certains noms se ressemblent, ce qui peut d'ailleurs entraîner un certain nombre de confusions. Arthrose, arthrite, polyarthrite, spondylarthrite, mais aussi lombalgie, tendinite, capsulite, maladies inflammatoires, maladies dégénératives. Ces rhumatismes concernent un Français sur trois et à l'échelle de la planète constituent la première cause de handicap. Au cours de cette émission, il sera bien sûr question de prise en charge, de lutte contre la douleur, comment faciliter la mobilité, limiter la gêne. Il sera question aussi de prévention, ce que l'on peut changer pour améliorer sa qualité de vie, sa mobilité. Et l'on verra que tout ne se joue pas au cours de la consultation. Comme tous les jours, vous avez la parole pour poser vos questions au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Et pour répondre à toutes ces questions, notre invité en studio, professeur François Ranoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue et chef du service de rééducation fonctionnelle au CHU à l'hôpital Cochin à Paris. Nous retrouverons en ligne du Burkina Faso le professeur Joël Tiendré-Béogo, maître de conférence agrégé en rhumatologie université Joseph Kizerbo, également rhumatologue au CHU de Bogodogo. Initiative de lutte contre le cancer du sein au pluriel à l'occasion d'Octobre Rose, difficulté d'accès aux soins en oncologie en République démocratique du Congo. On va donner la parole au professeur Gertrude Louyeyem-Villa, qui préside l'ONG Repos, qui lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Ranoux, longue liste des maladies qui entrent dans la famille, dans la case rhumatisme. Lesquelles de ces atteintes sont les plus fréquentes ?
Ah, indiscutablement, c'est l'arthrose. Qu'elle soit périphérique ou axiale, axiale ça veut dire colonne vertébrale, c'est largement l'arthrose. C'est en France, si on met l'arthrose périphérique et l'arthrose rachidienne, ça explique à peu près 80%, 90% du handicap verbalisé par les gens, le handicap d'origine locomoteur. Et 10%, c'est polyarthrite, spondylarthrite, ostéoporose et déformation rachidienne, c'est-à-dire scoliose.
Ça veut dire qu'un grand nombre de patients arrivent dans le cabinet du rhumatologue, dit « j'ai mal là » et le diagnostic sera arthrose.
Exactement.
Professeur Ranoux, arthrose, arthrite, spondylarthrite, je disais, il y a ces mots, cette sonorité qui se ressemblent. Des fois, on se mélange un peu, on dit « j'ai de l'arthrite, de l'arthrose, je ne sais plus trop », alors que c'est différent. C'est quoi ce qui distingue ces différentes maladies ?
Schématiquement, l'arthrose, c'est une maladie plutôt, on va dire, dégénérative, liée à l'âge, qui est une maladie quand même beaucoup liée à la vieillesse. Alors bien évidemment, il y a des arthroses un peu particulières, génétiques, etc., post-traumatiques. Alors que l'arthrite, c'est une maladie inflammatoire. C'est-à-dire qu'on a en même temps une inflammation du corps qu'on peut détecter dans une prise de sang. Et dans ce chapeau arthrite, eh bien, il y a tout un tas de rhumatismes inflammatoires. Ça va de la polyarthrite au, vous l'avez dit, à la spondylarthrite, mais il y a aussi la goutte. Il y a aussi la chondrocalcinose. Et puis, il y a, alors nous, on en voit très peu en métropole, mais il y a aussi il y a des rhumatismes inflammatoires aussi qui peuvent être tout simplement les manifestations d'une infection, parfois. Hein. C'est rare, mais ça existe. Et voilà, en gros, c'est d'un côté, on a vraiment une maladie, on va dire, générale, et qui a un tropisme pour les articulations, c'est-à-dire que c'est les articulations qui vont parler. De l'autre côté, on a une maladie qui est aussi générale, mais qui ne se détecte pas dans le sang, et qui est plus liée à l'âge, ou au traumatisme, ou à la génétique.
Est-ce qu'elles ont toutes un caractère chronique, professeur Ranoux, ces maladies, ou pour certaines d'entre elles, on peut en guérir et ne plus en entendre parler ?
Alors, on a, avec l'arrivée de la médecine de précision, où on a des médicaments très spécifiques qui sont capables de bloquer telle molécule, dans les rhumatismes inflammatoires, aujourd'hui, dans la polyarthrite rhumatoïde, on ne va pas parler de guérison, parce qu'on n'arrive pas encore à arrêter les traitements, mais on va parler de rémission prolongée. Et c'est sûr que quand on donne, on prescrit les nouvelles thérapeutiques, à la fois la polyarthrite, mais également tout le groupe des spondyarthrites, eh bien, on arrive à mettre les patients en rémission, ce qui n'est pas vrai dans l'arthrose, où il n'y a pas encore de traitement qui ait un effet sur la structure. Mm-hmm. Vous voyez, alors que les autres dont je vous parle, qui sont les biologiques, c'est-à-dire les anti-TNF, c'est des anti-hormones cellulaires, eux ont un vrai effet, non seulement sur les symptômes, mais sur la structure.
Mais il faut le souligner, hein, ces médicaments de dernière génération, même si ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on peut les utiliser, ils ne sont pas accessibles partout sur la planète.
Alors, c'est clair qu'ils ne sont pas accessibles parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher pourquoi ? Parce que pour fabriquer la molécule, et c'est vrai que c'est des dizaines d'années de recherche, mais aussi par le mode de délivrance qui est compliqué, qui nécessite d'aller à l'hôpital. Sauf que ces dernières années, on a des médicaments maintenant qui marchent aussi bien que les anciens biologiques et qui se donnent par la bouche. Et on peut imaginer, bien évidemment, que ça facilite quand même, malgré tout, même s'il coûte cher, il n'y a pas besoin d'un support hospitalier qui soit lourd, si vous voulez.
Ça veut dire, malgré tout, il y a toujours un suivi au niveau sanguin
bien sûr.
Pour voir comment l'organisme tolère le médicament.
Ah bah bien sûr.
C'est essentiel. Bien sûr. Alors, on va aborder les questions de prise en charge, des traitements, des exemples concrets. Tout de suite, on donne la parole aux auditeurs de l'émission.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et en ligne, c'est vous, Constant, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
Je suis Constant de Côte d'Ivoire, Abidjan.
Oui, oui. Vous avez 50 ans, Constant, et vous avez des douleurs depuis quand ?
Depuis 3 ans, je souffre d'un certain nombre de douleurs qui ont commencé dans le bras droit, puis le bras gauche, ensuite dans les pieds. Et j'ai des sensations de chaleur dans ces membres-là, jusqu'à ce que il y a quelques temps, on me fasse faire un scanner, qu'on me dise que j'ai un début d'arthrose au niveau lombaire et cervical.
Ces douleurs, excusez-moi Constant, ces douleurs, ça vous empêche de faire certains gestes du quotidien ?
Et oui. En ce moment où je vous parle, je suis en repos maladie pour 10 jours, parce que depuis 4 jours, j'ai fait une crise.
Est-ce qu'on vous donne un traitement, Constant ?
Lors de cette dernière crise, on m'a prescrit des médicaments en injection et puis des comprimés. Mais j'avoue que depuis 3 ans, je change chaque fois de médicaments et je ne vois pas une évolution nette de mon état.
Vous prenez plusieurs types de médicaments, en même temps des choses pour lutter contre de la douleur et des choses pour calmer votre arthrose ?
Exactement. Ce sont ces genres de médicaments.
Et en termes de rééducation, vous a demandé de faire des exercices particuliers ?
Oui, on m'a d'abord conseillé de voir des kinés, ce que j'ai fait. Sauf qu'avec les kinés, on ne peut pas en faire plus de 2 par an, compte tenu des assurances que nous avons.
Oui, ça coûte trop cher.
Et puis, voilà. Et puis après, on m'a demandé aussi de faire quelques mouvements quotidiens à la maison, ce que j'ai fait. Mais bon, il y a des périodes où ces mouvements ne suffisent pas et puis, une crise survient, quoi.
Et ça vous pèse sur le moral, Constant ?
Oui. C'est vrai qu'on a mal physiquement, mais moi, mon mal est plus psychologique. Parce que j'ai des enfants de bas âge et régulièrement, on ne peut pas faire plein d'activités avec les enfants. Parce que vous avez mal, vous êtes couché, vous avez d'autres choses à faire. Voilà.
Vous avez l'impression de gâcher des occasions avec les enfants.
Exactement.
Alors Constant, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission ? Qu'est-ce que vous voulez demander à notre invité, au professeur Anou ?
D'abord, je voudrais savoir, tel que décrit, est-ce que c'est vraiment, après son intervention, c'est vraiment l'arthrose ou une arthrite ? Et puis, est-ce qu'il y a des traitements palliatifs ? Parce que moi, je suis ulcéreux. Dans les anti-inflammatoires, il y a une certaine catégorie qu'on ne peut pas me prescrire. Et j'ai besoin de quelque chose qui puisse me permettre, je pense, de vivre un peu mieux, surtout avec ma famille.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait pleinement du traitement que vous recevez, professeur Ranou. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Constant, même si, encore une fois, on ne fait pas de consultation à distance. C'est impossible de contrer, de contredire un diagnostic à distance. Mais par rapport à ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quel point ?
La première chose, quand il parle de son diagnostic, il y a un renseignement qu'il ne nous a pas donné, c'était de savoir s'il avait une prise de sang quand même. Il faut quand même avoir un minimum. Il faut avoir une prise de sang pour faire une vitesse de sédimentation, un facteur rhumatoïde. C'est des choses vraiment qui sont basiques, qui ne coûtent pas cher.
Et voir s'il y a une inflammation dans son corps.
Exactement. Juste voir s'il y a une inflammation, même la VS suffit, la vitesse de sédimentation. Et donc, dans le cas de la polyarthrite, on a une VS très augmentée, alors qu'on ne va pas la voir dans la polyarthrose. Après, ce qu'il raconte quand même, c'est un homme, il a plus de 50 ans, c'est plus le tableau d'une polyarthrose que d'une polyarthrite. Ce serait une femme, en périménopause, ça peut être aussi parfois un début de polyarthrite. Ensuite, pour les traitements, j'ai envie de rassurer notre auditeur, c'est-à-dire que les traitements aujourd'hui, qu'on soit à Paris ou en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les traitements sont les mêmes et c'est des traitements qui coûtent pas cher. Le traitement de fond, c'est l'activité physique et on n'a pas besoin d'un kiné pour faire de l'activité physique. L'activité physique adaptée, c'est, et il l'a dit lui-même, c'est des étirements et du renforcement musculaire. Alors le kiné nous l'apprend aujourd'hui, mais moi les séances de kiné, j'en donne quelques-unes et après c'est fini. Et je demande au patient de faire lui-même. Alors après, tous les ans, je represcris une ou deux séances. Et puis, le sport. Quel sport ? Comme je dis toujours, le sport qu'on aime. Et si on n'a pas d'idée, eh bien, natation, vélo, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment les deux sports les plus adaptés. Donc ça, et ça, tout ça, ça coûte rien. Et après, pour ce qui est des médicaments, quand vraiment il y a des poussées douloureuses, on prend des anti-inflammatoires en fonction des comorbidités qu'on a, et ça c'est avec le médecin généraliste. Et sinon, si on ne peut pas prendre d'anti-inflammatoire, on peut prendre un médicament qui s'appelle de la colchicine, qui est un médicament qui ne coûte pas cher du tout, qu'on utilise dans la goutte, qu'on prend à 1,5 mg le matin, et qui a des vertus anti-inflammatoires.
Donc, en tout cas, si aujourd'hui vous avez toujours des douleurs constantes et toutes ces questions, ça veut dire qu'il y a vraiment la nécessité de consulter à nouveau.
Ah, je pense.
Et Constant, vous avez fait cette prise de sang pour voir si vous aviez un état inflammatoire ou pas ?
J'ai fait des prises de sang. À plusieurs reprises, on m'a dit qu'il y avait le CPK ou quelque chose qui était élevé, qui montrait que les muscles étaient... il y avait une inflammation au niveau des muscles.
Donc, je vais peut-être retourner consulter. Au niveau d'Abidjan, au niveau des différents hôpitaux de la ville, il y a un service de rhumatologie. Est-ce que vous êtes tourné directement vers ce service de rhumatologie ?
Oui, même hier, j'étais en rhumatologie avec un des médecins. Bah, puisque j'avais fait une crise, on a traité le week-end hier, il devait voir un peu mon état. Bon, il a vu que ça s'améliorait par rapport à ce que j'ai vécu le week-end.
Bon. Ben on vous dit bon courage, Constant. Bonne continuation. On va partir pour le Mali à présent, retrouver Ibrahima. Ibrahima, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors Ibrahima, vous êtes aujourd'hui en quelque sorte le porte-parole de votre épouse. Elle a 25 ans. Elle est à l'écoute ?
Oui, elle est à l'écoute.
Comment elle s'appelle, votre épouse ?
Elle s'appelle Josiane.
Alors Josiane, je vais décrire sa situation parce que on s'est entretenu un petit peu avec vous avant l'émission. Aujourd'hui, Josiane a du mal à marcher. Ça dure depuis combien de temps, Ibrahima ?
Ça fait plus de 15 ans.
Plus de 15 ans. Des douleurs, il y a eu un diagnostic de poser ?
Oui, il y a eu il y a 2 ans ou 3 ans. Elle a été diagnostiquée polyarthrite. Voilà, mais avant ça, depuis à l'âge de 8 ans, elle a été mordue par un serpent lorsqu'elle était en voyage à Côte d'Ivoire. Donc, après avoir été mordue par le serpent, elle a fait 8 jours de coma. Comme elle était dans un village, on lui a fait des traitements traditionnels. Donc, lorsqu'elle est revenue en elle, sa maman est partie la chercher pour l'amener au Mali. Et c'est comme ça qu'on a eu à avoir des difficultés pour elle, notamment sur la mobilité.
Sur la mobilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne marche plus ?
Elle ne marche plus.
Elle ne marche plus. Alors, il y a eu ce diagnostic de polyarthrite de poser. Est-ce qu'il y a un traitement qui a été proposé à votre épouse par le médecin?
Tout à fait.
Alors, elle l'a pris, ce traitement, ou pas?
Oui, oui, ça fait maintenant 2 mois et 1 semaine qu'elle est en train de suivre ce traitement. Voilà, parce que avant qu'elle ne commence à prendre le traitement, c'est-à-dire...
Alors, je vous écoute, Ibrahima.
Oui, oui, effectivement. Avant qu'elle ne commence à prendre le traitement de méthotrexate que le docteur lui a prescrit.
Oui.
Voilà, donc elle a eu des douleurs atroces au niveau de la surface de sa main.
Oui.
Qui fait que quelqu'un qui rampe déjà et qu'elle a encore des douleurs pour sa mobilité.
Vous dites qu'elle rampe parce qu'elle cède à marcher avec ses mains quand elle est, par exemple, sur le sol.
Tout à fait.
C'est une image qui est très difficile à imaginer, hein. C'est quelque chose de terrible. Comment est-ce qu'elle réagit au méthotrexate, à ce médicament qui est assez fort? Comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce que ça l'a soulagée?
Oui, parce que maintenant, on aperçoit qu'elle n'a plus de douleur.
Mm-hmm. Ça, c'est essentiel quand même. Hein?
Voilà, elle n'a plus de douleur. Et puis, ses mains commencent à avoir de la force parce qu'elle avait du mal même à prendre les objets.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis aussi, maintenant, ses doigts commencent à s'étendre.
Est-ce que ces doigts se décontractent en quelque sorte? Ibrahima, c'est quoi la question que vous souhaitez poser à notre invité? On entend en tout cas à quel point vous soutenez votre épouse. On la salue, hein, parce qu'on sait qu'elle écoute, c'est important. On sait que vous êtes là, Josiane. Qu'est-ce que vous voulez demander précisément?
Voilà, donc hier j'ai discuté avec elle par rapport aux questions qu'elle souhaiterait poser au docteur.
Oui.
Voilà, donc elle voudrait savoir par rapport à la maladie, est-ce qu'elle est transmissible? Si oui, comment?
Mm-hmm.
Ensuite, quelles sont les causes probables de cette maladie?
Mm-hmm.
Maintenant, comme ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est mariés.
Oui.
Maintenant, elle souhaiterait savoir si elle peut tomber enceinte pendant qu'elle suit le traitement.
Mmh. Parce que il y a des contre-indications sur ce médicament en particulier.
Tout à fait. Et qu'elle a lu sur la notice.
Elle a lu sur la notice et c'est une réalité. Alors, des questions vastes et importantes. Déjà, sur la cause de la polyarthrite, pour éclairer Josiane.
Alors, la cause, c'est... un mélange à la fois de causes, on va dire, génétiques, c'est un certain nombre de gènes, en fait, qui sont impliqués dans la genèse de cette maladie, et également des causes environnementales, avec des déclencheurs, en fait. Mais c'est quand même, ça fait partie des maladies, des connectivites, des maladies de système, des maladies auto-immunes, hein. Donc, y a une part d'immunité qui est... Il y a à la fois, si vous voulez, un dérèglement de l'immunité et à la fois une inflammation chronique. Donc ça, c'est les causes avec parfois des formes familiales, mais c'est absolument pas systématique. Mais souvent, quand on interroge les patients ou les patientes, il y a
quelqu'un
cousine,
dans la famille,
une tante, un oncle qui a eu une maladie, pas obligatoirement la même, hein. Mais ça peut être un lupus, ça peut être une maladie de Sjogren, ça. Il y a un terrain familial, bien évidemment.
Terrain familial, mais pas hérédité absolue, en
tout
cas.
Non, pas du
tout. Voilà pour à peu près les causes. Alors, le traitement, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, Josiane prenne ce traitement parce qu'elle était en grande souffrance et que ça la soulage. Maintenant, si elle a un projet d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Il faut savoir comment on avance dans la vie, l'envie d'un bébé, mais l'envie surtout d'avoir un bébé bien portant.
Exactement. Avec des molécules, le méthotrexate, c'est sûr que sont des molécules qui sont potentiellement tératogènes, hein, puisque c'est ce qu'on appelle des antimitotiques. On les utilise à forte dose pour traiter les cancers.
Donc, je vais parler en français du grand public. Ça veut dire que ça peut avoir un effet sur la formation du bébé ou des malformations
du
fœtus.
Voilà, exactement, puisque c'est une molécule qu'on utilise en cancérologie pour tuer les tumeurs, en fait.
Oui, c'est très fort.
Voilà. Alors, il y a une info qu'on n'a pas, mais... J'imagine qu'elle a été mise sous corticoïdes. Donc, ce qu'on fait souvent, on essaye d'arrêter toutes les molécules potentiellement tératogènes et on laisse les patientes uniquement sous corticoïdes.
Il faut attendre combien de temps? d'arrêt du méthotrexate. On va dire, moi je vais parler concrètement, oui. Avant de mettre le bébé en route, il faut attendre quoi ? 3-6 mois ?
Il faut attendre, oui. 3-6 mois, 3 mois, 3 mois. C'est... Alors le problème, c'est qu'après, la maladie peut flamber. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on utilise les corticoïdes qui, eux, sont utilisables.
Il faut garder le contrôle.
Voilà. Mais la chose qui est fondamentale, c'est qu'une grossesse, quand on a une polyarthrite, en fait, c'est terrible, mais c'est la vérité, ça se prépare avec son médecin. Mmh. C'est-à-dire, on vient pas voir le médecin en disant « ça y est docteur, je suis enceinte ».
Mais c'est non. pas la seule maladie, il y a d'autres maladies où il faut programmer.
On est obligé de programmer, parce que sinon, on sait que justement, ces premiers jours de fécondation et de ces premières semaines sont fondamentales.
Par exemple, l'épilepsie, quand on est épileptique sous traitement, il faut faire très attention, on en parle à son neurologue et à son gynéco.
Exactement, et on anticipe, et c'est si vrai que nous avons, j'ai des collègues aujourd'hui qui ne font quasiment que ça, c'est-à-dire grossesse, qui s'occupent des grossesses dans les maladies auto-immunes, dans la polyarthrite.
C'est très intéressant. On va faire une émission. Ça m'inspire.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, vous avez bien entendu.
Surtout que ça touche la polyarthrite des femmes jeunes.
Absolument.
Donc, c'est.
Il y a un avenir. Il y a un avenir. Si elles ont un projet de famille, il faut le respecter.
Bien sûr.
Josiane et Ibrahima, qui est à l'écoute avec nous, vous avez entendu, donc, retourner voir le médecin et parler de ce projet d'enfant avec le médecin pour voir comment adapter. Le traitement pour pouvoir mener tous vos projets à bien.
D'accord.
Voilà. On vous remercie infiniment pour ce témoignage, pour votre histoire. Bonne journée à Bamako, professeur Ranou. D'autres questions dans quelques minutes, juste après le duo Eddy Depreto-Iseux. Pause et kiss.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, me fuir. Jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Et tu fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me die. Qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille. Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi, tu connais comment je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher.
Priorité santé, nous parlons des rhumatismes aujourd'hui en compagnie du professeur François Ranou, rhumatologue, rééducateur en chef du service de rééducation fonctionnelle au CHU Cochin à Paris. On a parlé de la polyarthrite, de l'arthrose en première partie d'émission avec deux premiers auditeurs. Sur Facebook, Elvis du Sud Kivu, précisément de Baraka, demande quel est le traitement recommandé cette fois dans une autre maladie inflammatoire, la spondylarthrite ankylosante.
Alors d'abord, pourquoi ça s'appelle spondylarthrite ? Spondyle, ça veut dire vertèbre en fait. Donc c'est une maladie inflammatoire qui va toucher surtout ce qu'on appelle l'axe, c'est-à-dire la colonne et les fesses, les sacroiliaques, mais qui peut aussi toucher les articulations périphériques comme la polyarthrite rhumatoïde. C'est comme la polyarthrite rhumatoïde, une maladie infectieuse, mais une maladie inflammatoire, ouais, pardon, inflammatoire, mais il n'y a pas cette immunité, on n'a pas d'anticorps particulier. Elle est liée essentiellement à un terrain génétique particulier, avec un environnement également particulier. Et les traitements ressemblent à ceux qu'on utilise dans la polyarthrite. Pour les spondylarthrites qui ont des manifestations surtout périphériques, c'est-à-dire ils ont moins mal au dos, ils ont beaucoup plus mal dans les mains, dans les pieds, dans les genoux, dans les hanches, c'est un traitement qui est très proche de celui de la polyarthrite, c'est-à-dire des anti-inflammatoires, un immunosuppresseur, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le méthotrexate, voire parfois les corticoïdes. Mais c'est surtout anti-inflammatoire et immunosuppresseur, quel qu'il soit. Et par contre, comme dans la polyarthrite, si on échappe, on a la même chose, ces nouvelles molécules dont on a parlé au tout début.
Alors là, dans l'est de la RDC,
c'est
pas
possible. Non, c'est donc pas possible. Là, la spondylarthrite, le traitement qui marche le mieux et qui coûte vraiment rien du tout, c'est de prendre des anti-inflammatoires. Alors souvent, les gens le prennent mal en disant « Non, mais on me donne des anti-inflammatoires comme si on me donnait du paracétamol. » Oui, mais c'est le traitement de la maladie. C'est-à-dire un anti...
Ça veut dire attention, parce que ça, c'est vraiment un message à Elvis. Avant de prendre ces anti-inflammatoires, on va voir le médecin. Pas de médicaments de la rue, pas de médicaments au marché.
Ah oui,
tout ça, c'est sur ordonnance. Attention.
Exactement. Et en France, la majorité des spondylarthrites ne prennent que des anti-inflammatoires. Que des anti-inflammatoires. Donc, on peut faire ça, bien évidemment, n'importe où. Et c'est des médicaments qui ne coûtent rien.
Alors, professeur François Ranoux, on part pour Conakry, la Guinée. On rejoint tout de suite Alioune. Alioune, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 29 ans, Alioune. Vous, votre douleur s'est déclenchée après un effort intense. Ça remonte à quand?
Ça fait pratiquement 4 ou 5 ans comme ça.
4 ou 5 ans, et les douleurs, elles sont localisées où?
Au niveau du dos.
Au niveau du dos. Oui.
Au niveau du dos, bien sûr.
Vous avez consulté, qu'est-ce qu'a dit le docteur? Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Quel diagnostic?
On m'a dit que c'est une douleur passagère, mais sauf que la douleur n'est pas passagère parce que à chaque fois, je me couche, par exemple, au réveil, je sens des douleurs presque partout. Et parfois même durant la mobilité, j'ai des douleurs atroces, vraiment atroces. Alors, il fait que parfois, quand je pars faire du sport, alors il fait un moment là, j'étais obligé de stopper, j'étais obligé de m'allonger pour qu'on puisse un petit peu me masser le dos parce que la douleur elle était insoutenable. Je ne pouvais pas continuer en fait.
Vous prenez des antidouleurs? Vous prenez quoi? Des anti-inflammatoires?
Je prends des anti-inflammatoires très, très souvent parce que j'ai des amis médecins. Il y a un moment là, j'avais du mal à me réveiller. J'étais assis. Alors, quand je voulais me lever, j'avais une douleur très atroce. Du coup, il s'est dépêché, il est parti me chercher un anti-inflammatoire diclofenac. Voilà, il m'a fait une injection.
Est-ce qu'on vous a parlé de vos mouvements? Est-ce que vous avez fait des exercices particuliers après, justement, cet accident qui a déclenché ces douleurs?
Mouvement particulier. Oui, bon, non.
Non, sur la posture, non. Sur la façon, par exemple, de soulever des charges ou des choses comme ça, on ne vous a pas donné de conseils?
Non, on m'a juste dit peut-être d'éviter ceux qui pourraient me faire mal, c'est tout ce qu'on m'a dit.
Éviter ce qui peut vous faire mal. Professeur Ranoux, est-ce que le facteur de l'âge, parce que Alioune est jeune, il n'a que 29 ans, est-ce que ça peut jouer sur ses douleurs?
C'est pas comme ça que j'envisage les choses. C'est que est-ce que en fonction de l'âge et qu'on a mal dans le milieu du dos, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir une maladie X ou Y?
Ouais.
Et à cet âge-là, avant 30 ans en tout cas, même si ça paraît très mécanique ce qu'il a, la première maladie qu'il faut toujours éliminer, c'est la spondyarthrite. D'accord. Parce que la spondyarthrite axiale, ça donne mal dans le dos et c'est sensible aux anti-inflammatoires et on est jeune. Une fois qu'on a éliminé ça, mal dans le dos, dans le milieu du dos notamment, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner ça. Il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Scheuermann, qui est une maladie de la croissance, en fait, de la colonne vertébrale, qui donne des troubles un peu comme la scoliose, en fait. et qui se développe surtout à l'adolescence. Et puis après, il y a les dorsalgies traumatiques. Il peut-être qu'il s'est tasser une vertèbre, c'est possible, hein, ou alors un bout de disque qui rentre dans le plateau. Donc je crois qu'il quand même, quand on a 29 ans comme ça, qu'on est gêné depuis plusieurs années, il faut ce qu'on appelle faire un bilan structural. Déjà une radio. Il faut une radio sérieuse.
Et vous avez fait des radios à Lyon ?
J'avais fait la radio. Ça, c'était quand j'avais eu
l'accident.
Pour la première fois, l'accident. Voilà. Et ça n'a rien révélé, c'est ça ?
Rien. Le médecin m'a dit qu'il ne trouve rien d'anormal. Mais sauf que j'ai oublié de signaler une petite partie là. Moi, je suis sportif. Je joue souvent au basketball. Il m'arrive des moments. Vous savez, pour jouer avec Palos, il faut fléchir des trucs comme ça. Là. Je ressens parfois une douleur vers le côté droit, mais c'est soutenable.
Et vous continuez malgré tout le sport ?
Oui, parce que je me dis qu'il faut que je fasse quand même le sport. Mais parfois, je suis obligé, par intermittence, de m'asseoir et puis revenir, m'asseoir, revenir.
En tout cas, professeur Anou vous approuvez quand il dit qu'il continue le sport.
Oui, bien sûr. Parce que finalement, là, avec tous les renseignements qu'il nous donne en plus, je pense qu'il a, il a probablement une dorsalgie ou une lombalgie commune, ce qu'on appelle commune. Et dans ces cas-là, comme je dis souvent à mes patients, le dos, on ne peut pas vous le changer. Une hanche, ça se change, hein. On met une prothèse, un genou, ça se... Mais un dos, on ne peut pas le changer. Donc, il y a toute une composante de faire avec. Il faut faire avec. Et il faut que toutes les autres structures soient au top. Les autres structures, c'est essentiellement les muscles. Et donc, il faut absolument faire de l'activité physique de manière régulière. Et c'est très bien ce qui fait laquelle, celle que le, si c'est le basket que vous aimez, vous faites ça. Mais sans muscles, si vous voulez, la colonne, elle ne tient pas. On le voit d'ailleurs dans les maladies musculaires. Il y a les maladies musculaires rares qui atteignent les muscles de la colonne vertébrale. Eh bien, les gens, ils vont pas bien du tout, ils ont mal, et puis ils finissent par s'effondrer en avant ou sur le côté.
Donc, on vous encourage à poursuivre cette activité. On vous remercie beaucoup pour votre appel à Lyon. On part tout de suite pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On retrouve le professeur Joël Tiendré Béogo. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, Caroline Duparé.
Alors, rhumatologue, vous exercez au CHU de Bogodogo. En consultation, quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent, professeur ?
Alors, bonjour, professeur Anneau aussi.
Bonjour.
À l'image de ce qu'il a dit, les trois quarts de nos patients en rhumatologie au Burkina Faso ont de l'arthrose, l'arthrose des membres et l'arthrose rachidienne. Puis, en deuxième groupe, ce sont les rhumatismes inflammatoires chroniques avec la polyarthrite rhumatoïde en tête de file et la goutte. Beaucoup plus, hein, en termes de fréquence, sont les affections les plus fréquentes. Et beaucoup, beaucoup d'arthrose.
Beaucoup d'arthrose, avec aussi un certain nombre de douleurs qui sont peut-être liées à des habitudes particulières, à des postures. Parce qu'en préparant, c'est ce que vous nous avez dit, vous constatez ça en particulier chez les femmes.
Oui, tout à fait, chez les femmes. Parce qu'on sait que la femme africaine, avec la posture un peu cambrée, ce qu'on appelle hyperlordose, elle a tendance à faire beaucoup plus de lombalgie. Et les tâches ménagères aussi, parce qu'on fait le nettoyage en posture penchée, c'est-à-dire courbée. Voilà, tout ça expose le linge, la lessive. Les attitudes qu'on adopte dans notre contexte favorisent... les maux de dos.
Ça veut dire, professeur, que vous donnez aussi parfois à ces femmes qui viennent parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ont mal, elles n'arrivent plus à porter, vous leur donnez des conseils en termes de posture ?
Beaucoup, beaucoup. La moitié de la consultation, c'est vraiment expliquer ce qu'il faut éviter pour déclencher ces douleurs-là et pour qu'elles reviennent.
Mais dans votre contexte, encore une fois, il y a quelque chose qu'on regrette et qu'on entend toujours de la part de vos confrères, c'est le retard de consultation, parce qu'avant d'arriver à l'hôpital, on passe par un certain nombre d'étapes.
C'est vrai, en effet. Les patients passent souvent par les tradithérapeutes avant d'arriver à l'hôpital à des stades avancés, au stade de complications. C'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer, informer sur la disponibilité des personnels de santé qui connaissent des maladies rhumatologiques et qui peuvent les prendre en charge.
Faire passer le message qu'on peut vous soulager aussi à l'hôpital, hein, c'est important. On a un auditeur en ligne qui a une question pour vous, professeur. C'est Ibrahima. Ibrahima, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes en ligne de Conakry, 27 ans, beaucoup de jeunes qui ont mal aujourd'hui, qui nous appellent. Des douleurs depuis l'enfance, c'est bien ça? Avec quels symptômes?
Oui. Au fait, je souffre des douleurs musculaires et tendino-ligamentaires depuis à bas âge. Des fois même j'ai des enflements aux pieds, aux mains.
Oui.
Au fait, je suis allé me consulter récemment à l'hôpital.
Oui.
Et le médecin m'a dit que je souffre de rhumatisme articulaire aigu.
Rhumatisme articulaire aigu. Vous avez aussi fait des examens qui concernent une autre maladie que les auditeurs connaissent bien, la drépanocytose. Vous aviez une question en lien avec cette maladie. Votre cas, c'est lequel? Parce qu'on sait qu'il y a les personnes qui sont malades, qui ont SS, hein, comme on dit. Vous n'êtes SS, vous êtes AS. Alors expliquez-nous ce qui vous inquiète.
Mon inquiétude est qu'à chaque fois que je pars à l'hôpital, on me prescrit les mêmes produits.
Ouais.
À savoir des anti-inflammatoires comme des injections de diclofenac, de la benjatine, ou des pommades ou bien de la pénicilline G. Ceci comme des douleurs pour quelques mois ou une année comme ça, et puis ça revient. Mais c'est comme si j'ai l'impression que ça ne guérit pas définitivement, quoi.
Ah bah, le fait que ça guérisse pas définitivement, on va dire, professeur Tien Drebeogo, ça fait partie de la maladie, hein, parce que c'est pas une maladie dont on va venir à bout avec un médicament.
En effet, mais ce qui est un peu gênant pour monsieur Ibrahima, c'est ses atteintes au niveau des mains. Parce que classiquement, le rhumatisme articulaire aigu ne donne pas de douleur au niveau des mains. Chez les enfants, tout bébé, au début, oui. Mais je suis gênée par ces douleurs, ces gonflements dans ses mains. Et aussi, l'électrophorèse de l'hémoglobine AS, c'est le trait drépanocytaire. Il a risque de transmettre la drépanocytose, mais en général, les terrains AS ne font pas beaucoup de manifestations.
Ouais.
Donc, je pense qu'il serait bien qu'il reparte. Il y a des rhumatologues à Conakry.
Oui.
À l'hôpital national INSD pour voir des collègues sur place. Parce que ça peut être une arthrite juvénile idiopathique, un tableau qui évolue depuis l'enfance, qui donne des gonflements dans les mains et les pieds. Il faut y penser aussi.
Ibrahima, vous avez consulté où à Conakry?
Je me suis fait consulter dans une clinique privée de la place.
Donc il faudrait peut-être aller voir au CHU, ce serait une bonne chose?
Ok, je vais le faire après. Mais
pour éventuellement faire des examens complémentaires, vous avez une autre question? Je vous écoute.
Oui, j'ai des questions à poser.
Allez-y, mais le temps nous presse un petit peu, allez-y.
Oui, je voudrais savoir pourquoi certains aliments déclenchent ma maladie. Là.
D'accord.
Comme de la viande rouge, de mouton ou vache non sèche, les poissons non séchés, les boissons fraîches.
Vous avez constaté que ça déclenche parce que vous avez plus de crises quand vous en mangez ou simplement parce que depuis que vous avez arrêté, ça va mieux? Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs poussé à arrêter ces aliments en particulier?
Depuis que j'ai arrêté ces aliments, il y a beaucoup mieux. J'ai constaté que lorsque je prends ces aliments, ça déclenche la douleur.
Vous faites le lien entre les deux. Est-ce que c'est prouvé, professeur Tien Drebeogo, qu'il y a des réactions qui sont induites par la consommation de certains aliments?
Ben, pour ce qui concerne la goutte, cela est connu. L'alimentation, notamment la viande rouge, les abats, les alcools, expose à des crises de goutte.
On peut avoir de la goutte à 27 ans, professeur?
Justement, c'est exceptionnel d'avoir de la goutte à cet âge.
Mais
surtout qu'avant les 27 ans, il décrit des crises, ce monsieur, depuis l'enfance.
Ouais.
Donc, ça m'étonnerait que ce soit de la goutte. Mais il faudrait encore une fois qu'il aille faire des examens pour qu'on...
Ça doit vous inciter, Ibrahima, à retourner consulter pour essayer d'affiner ce diagnostic. Non pas qu'il soit forcément faux, mais au moins de savoir exactement où vous en êtes. On vous remercie pour toutes ces questions, Ibrahima, et on va dire, professeur Tien Drebeogo, on a des auditeurs qui vont pas forcément voir des rhumatologues, et pour cause, il n'y a pas beaucoup de spécialistes, hein.
En effet, au Burkina, en 2006, on avait un seul rhumatologue. Et là, en 2021, maintenant, nous sommes à 10.
À 10, ça a explosé, bon, hein, de 1 à 10. Excusez-moi de faire de l'humour là-dessus, mais c'est 10 rhumatologues pour 20 millions d'habitants. On en est là, quoi.
Exactement. Voilà. Ça a augmenté, le nombre de rhumatologues a augmenté, mais reste insuffisant.
Ah bah, terriblement insuffisant, effectivement.
Oui.
Mm-hmm. Et c'est vraiment important de faire connaître cette spécialité pour améliorer la prise en charge. Hein.
Tout à fait.
Merci infiniment pour votre éclairage, professeur. Très belle journée à Ouagadougou. Professeur François Ranou, votre consoeur du Burkina, évoquait cette question du retard de diagnostic. Les contextes ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que c'est aussi une réalité à laquelle vous êtes confronté dans un grand hôpital parisien, des gens finalement qui consultent assez tard?
D'abord, je voulais saluer ma consoeur, le professeur Tiendré Beogo. Donc le retard de diagnostic aujourd'hui et de prise en charge, il existe, mais je crois que d'un point de vue, on va dire sociétal, il est très différent de ce qui peut arriver en Afrique. Nous, on est tellement gâtés par notre médecine, on a tellement accès à tout ce qu'on veut, que paradoxalement, le comportement souvent en France d'un certain nombre de Français, c'est justement de faire tout sauf de la médecine. Et donc, on a parfois, on voit, oui, des diagnostics.
Vous aussi, vous devez rattraper des fois certaines choses.
Bien sûr, qui est de patients qui sont pris en charge par. Moi, j'ai pas le. Je le dis de manière tout à fait. Qui sont pris en charge par des charlatans, des pseudo-spécialistes de l'appareil locomoteur. Donc, ça, on en voit, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on a quand même accès aux rhumatologues. Il y a 2000 rhumatologues en France pour 70 millions d'habitants, vous voyez. Et dans chaque CHU, vous avez un service de pointe.
Donc, on a de la chance. Il est toujours bon de le rappeler.
Oui,
voilà.
Je trouve.
On vous remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, de vous être rendu disponible aujourd'hui entre deux patients. Professeur Ranou, je rappelle que vous êtes chef du service de rééducation fonctionnelle au CHU Cochin à Paris.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on termine cette émission. Nous arrêtons donc dans la capitale de la République démocratique du Congo pour vous donner la parole. Professeur Gertrude Louyeyem-Villa, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous donne la parole bien sûr à l'occasion d'Octobre Rose, hein, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, puisque vous êtes, professeur, la présidente de l'ONG Repos. Derrière le nom de votre association, il y a Regard pour un sein sain qui lutte contre deux cancers féminins, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, avec justement ce suivi, ce traitement, cette information sur ces cancers dans le contexte de la RDC. C'est loin d'être simple. Comment décrire la situation aujourd'hui?
Merci beaucoup Caroline. Disons que si on la compare à il y a 10 ans par exemple, la situation a évolué dans le sens où on a quand même un peu plus de conscience, la population est quand même un peu plus informée, il y a de plus en plus d'ONG qui en parlent, mais là où je suis encore un peu frustrée, parce que au mois d'octobre, des ONG en parlent, il y a des hôpitaux qui se font concurrence, appeler les femmes, aller faire le binôme éco-mammo pour se dépister du cancer de sein, mais en réalité, après le mois d'octobre passé, il n'y a
ça
plus
s'arrête.
Rien.
Mmh.
Tout à fait. Or, ça ne s'arrête pas que là. Quand ils font leur campagne, on découvre ces femmes avec des masses. Mais c'est que je dis toujours, toute masse au sein n'est pas égale au cancer. Mmh. Alors, lorsqu'on dépiste une femme, on la laisse comme ça, on ne lui dit rien du tout, elle ne vient pas à l'hôpital.
Il n'y a pas de biopsie derrière.
Oui, mais le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, les ONG s'arrêtent juste à dire aux femmes, vous avez une masse, allez à l'hôpital. Mais quand elles viennent à l'hôpital, c'est plus loin parce qu'il faut de faire une microbiopsie qui vous coûte plus de $250. Lorsqu'on a fait la microbiopsie et qu'on a confirmé un cancer, il faut faire l'immunohistochimie. C'est $260. Derrière cela, vous avez toute une gamme d'examens qu'il faut faire, les TAP, donc le scanner TAP, c'est un scanner où on fait thorax, abdomen et pelvis pour voir s'il y a des métastases. Dans la plupart des centres ici à Kinshasa, c'est plus de $500, $700, voire même. Et donc, avant que la femme n'ait fait, ne vienne pour qu'on commence à faire les traitements, elle est déjà au-delà de $1,000.
Hein. Et ça
donc,
veut dire, quand on parle d'argent, c'est pas du tout quelque chose de trivial, hein, quand on parle de cancer. C'est pas dire ramener tout à l'argent, toujours et encore. C'est que c'est simplement, quand on n'a pas cet argent, on ne se soigne pas. Et quand on a un cancer non soigné, on met sa vie en danger. Il y a un programme national de lutte contre le cancer. Mais qu'est-ce que ça change du côté des autorités, du côté des pouvoirs publics, en termes de prise en charge pour les femmes? C'est bien, effectivement, comme vous le dites, de dire, mesdames, il faut apprendre l'autopalpation. Mesdames, faites-vous dépister. Mais après, quand on vous lâche en pleine nature, c'est terrible.
Tout à fait. Tout à fait, Caroline. Et là, vous avez raison. Je profite d'ailleurs de RFI parce que je sais que la majorité des autorités congolaises écoutent cette émission. Et donc, c'est de lancer un cri de cœur parce que depuis à peu près 6 mois, il y a un programme national de lutte contre les cancers qui existe au Congo. Mais c'est jusque-là, honnêtement, c'est encore une coquille vide parce que bon, les programmes existent. Et puis après, donc on veut des choses concrètes. Parce que la plupart, il faut savoir que, je crois que vous le savez, le cancer de sein dans la race noire arrive chez des femmes jeunes.
Oui.
Et donc chez nous, ce sont des femmes qui ont 20 ans, 30 ans, et ce sont des femmes qui sont encore jeunes, en train de travailler, qui n'ont pas assez de moyens. Et donc il faudrait que les autorités réagissent. C'est le moment de réagir.
Parce que
donc,
justement, on l'expliquait dans une émission la semaine dernière, ouais. C'est davantage chez les femmes européennes, on va dire, d'origine hormonale, mais c'est davantage génétique chez les femmes noires, ça veut dire plus jeunes. Et on va dire aussi des fois plus méchant.
Tout à fait, plus méchant et très agressif. Et donc c'est pourquoi j'interpelle les autorités congolaises pour qu'on puisse, parce que jusque-là au Congo, nous n'avons qu'un seul appareil de radiothérapie chez un privé et une séance c'est $4,500. Même moi qui suis professeur, je ne peux pas me les payer.
Personne ne peut se payer ça, personne ne peut se payer ça.
Tout à fait, donc c'est ça.
Imaginons donc, un seul appareil de radiothérapie à l'échelle d'un pays, un pays continent, on va dire, comme la RDC. C'est invraisemblable. Invraisemblable.
Et donc, à Kinshasa, c'est ça.
Alors, un dernier mot. Il nous reste une trentaine de secondes parce que moi, j'aimerais, on a un petit peu mis le doigt sur ce qui ne va pas. On peut aussi souligner ce qui se passe de bien. Par exemple, ce que vous faites, professeur, quand certaines femmes n'ont plus de ressources, vous êtes aussi là pour les accompagner. Vous êtes aussi là pour les écouter.
Tout à fait. Et donc, c'est que nous faisons, nous, dans notre ONG, lorsque nous faisons ces campagnes et que nous avons ces jeunes femmes, comme j'ai la chance d'avoir quand même, je sais faire des biopsies, je sais les accompagner, donc faire des microbiopsies, et je t'appelle, dans notre ONG, nous avons de pathologistes qui sont dans notre ONG, qui acceptent de faire des immunos, qui acceptent de faire des anapathes gratuitement. Et donc, on sait accompagner les femmes plus ou moins jusqu'à l'année, là où elles peuvent faire un traitement. Mmh. Et là où je travaille, je suis directrice d'un centre d'imagerie médicale, nous amenons aussi certaines femmes, nous avons la possibilité de demander au chef, notre chef, c'est le général Kikobia, qui accepte qu'on puisse faire des scanners gratuits. Et donc, on sait accompagner quand même des femmes.
On sait le faire, mais tout ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté de personnes comme vous. On vous remercie infiniment pour toutes ces explications et on dit bien sûr bon courage à toutes les femmes. Allez vous faire dépister, c'est essentiel. Et merci à toute l'équipe. Demain, on va parler de la psychiatrie, spécialité délaissée, avec des étudiants en médecine qui, à l'inverse de la tendance, ont décidé de devenir psychiatres. Nous leur donnerons la parole. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.